Bien content d'être avec vous ce matin. Et Joël a dit que j'allais partager ce que Dieu m'a appris dans les 13 dernières années. J'aimerais dire en commençant que à travers les 13 dernières années, il n'y a pas un seul moment dans ma vie chrétienne où j'ai autant grandi, où j'ai autant appris. Et il semble que les épreuves sont des événements que Dieu permet, sont des étapes que Dieu permet qui nous font grandir et qui nous font apprendre des choses qu'autrement on n'apprendrait pas. Une des choses que je veux dire en commençant, c'est que ce que je vais vous partager, le héros de l'histoire, c'est pas moi, c'est Dieu. Je vais vous partager ce matin ce que Dieu a fait dans ma vie et que Dieu peut faire aussi dans votre vie à travers vos épreuves. Je vais vous partager ce que Dieu m'a montré à travers la maladie, mais il y en a bien d'autres épreuves qui nous enseignent beaucoup de choses. Vous avez des épreuves, nous avons des épreuves au niveau... Oui, merci. Nous avons des épreuves au niveau... De la santé, bien sûr, mais au niveau de la famille, au niveau de nos finances, au niveau de notre vie professionnelle, toutes sortes d'épreuves. Et ce que je vais vous partager, ce sont quatre principes, il y en aurait tellement. Mais compte tenu que Joël m'a dit que j'avais juste le temps ce matin et non toute l'après-midi, alors on va limiter ça à un certain nombre de choses. Et ce que je veux faire ce matin, c'est vous donner l'occasion d'appliquer ça à vos épreuves, à ce que vous passez à travers, et je pense que les principes sont universels. Je ne suis pas sûr qu'elle va tenir tout le long, en tout cas. J'aimerais qu'on lise un premier verset qui est dans l'Épître de Jacques, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dans le français courant, on le donne un peu différemment. Dans le français courant, on dit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux. » Levez la main ceux qui sont très heureux de passer à travers des épreuves. J'en vois pas bien, bien. Il dit ça quand même, c'est quand même l'original. Dans Tob, il dit, « Mes frères, prenez de très bon cœur. » Moi, je me serais contenté de bon cœur. C'est déjà un défi, prendre ça de bon cœur. Il a ajouté un « très ». De très bon cœur. Ça vient pas de seul. Ça vient pas de seul. Ça vient pas en premier. Il y a un auteur qui a écrit « La vie est comme un oignon qu'on épluche en pleurant. » J'ai pas trouvé ça très positif, mais j'ai trouvé que c'était vrai. Il y a des moments donnés dans notre vie où on passe beaucoup de temps à pleurer. Et vous savez, les épreuves que Dieu permet dans notre vie n'ont pas de limite, des gens instruits ou pas, des gens riches ou pauvres, des gens en vue ou pas en vue. Les épreuves sont le lot de la nature humaine parce que notre corps se décompose avec le temps et on est entouré. Un de mes amis a dit, on vit entre Genèse 3 et Apocalypse 22. Ça en dit long sur notre vie. Ça en dit long sur ce qu'on passe à travers et ça en dit long sur ce qui nous entoure. On peut passer à travers les épreuves de différentes manières, de différentes façons, mais les épreuves sont là pour fortifier notre foi. Quelqu'un a écrit ceci, « La foi est un élément vital de la vie chrétienne. Elle a besoin d'être mise à l'épreuve, premièrement, pour en éprouver la véracité, ainsi que pour l'épurer et la fortifier. » Ce serait tellement plus facile si on avait juste un livre à lire. Ce serait tellement plus facile si on avait l'histoire de quelqu'un qui nous racontait et qu'on la vivait. Maintenant, Il semble que Dieu a choisi d'autres façons de nous enseigner. Le texte de Jacques dit que regardez nos épreuves comme un sujet de joie complète. Ici, le mot joie n'est pas utilisé dans le sens de côté agréable, la joie de prendre un bon repas. Alors, c'est pas de ce genre, c'est pas cet accent-là, c'est pas le côté plaisant. Il y a jamais rien de plaisant à passer à travers une épreuve, quelle que soit l'épreuve, qu'elle soit professionnelle, familiale, santé, économique, vie de couple, peu importe, il n'y a pas de joie. Quand on parle d'épreuves, on parle des difficultés de la vie tout autant que des tentations. Et quand il nous dit « regardez », dans le sens original, c'est le même sens que si on disait « prends le temps de t'arrêter, de réfléchir et de considérer ». Alors, le mot « regarder » n'est pas juste de voir. Le mot « regarder » a un sens de s'arrêter, réfléchir à ce qui nous arrive, réfléchir à qu'est-ce que Dieu est en train de faire et considérer ce que Dieu est en train de nous dire. L'apôtre Pierre a dit des choses semblables dans un autre contexte. Dans 1 Pierre chapitre 1, il dit « C'est là ce qui fait votre joie ». Il parlait dans les versets précédents de notre salut, de la grâce qu'on a en Jésus-Christ. Il dit « Quoique maintenant, alors le salut fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ça non plus, j'aurais pas dit ça de même. Mes épreuves, plus précieuses que l'or périssable, pas sûr. Mais ça devient comme ça. Qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et un peu plus loin, dans le chapitre 5, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et c'est ça le but de Dieu dans les épreuves. Nous fortifier, nous affermir, nous rendre inébranlables. C'est pas le chemin qu'on voudrait. C'est pas notre premier choix. Et selon les épreuves qui nous arrivent, c'est pas aussi simple que ça. La joie spirituelle, c'est pas un simple sentiment de bien-être. On parle souvent des gens qui vont dire « Ah, j'ai perdu ma joie spirituelle ». Ben, c'est pas le fun. C'est pas « Est-ce que j'ai du plaisir ou j'en ai pas ». Notre joie spirituelle, elle est placée en Jésus-Christ. Et dans l'épreuve, Dieu vient justement la mettre au blanc et l'éprouver. Et c'est là qu'on a à regarder les choses. Donc, ce matin, à la demande de Joël, je vais vous partager certains principes que Dieu m'a enseignés à travers les 13 dernières années. Et c'est pour ça que je veux repréciser, le héros de l'histoire, c'est pas celui qui la raconte. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui donne la grâce et c'est Dieu qui envoie. Et de là, toute la beauté de la chose. Le premier principe, dans l'épreuve nous apprend à vivre la présence de Jésus et à compter sur lui. En avril 2012, on m'a appris que j'avais le cancer de la prostate, un cancer que beaucoup d'hommes expérimentent, et j'avais à ce moment-là 60 ans. Cette nouvelle-là, quand on reçoit une nouvelle de cancer égale mort. Et c'est ce qu'on perçoit habituellement. Alors, j'ai reçu ça comme un coup de tonnerre. Et donc, on a fait les examens, biopsie, et puis deux biopsies en dedans de 3 mois. Et finalement, après la deuxième biopsie, le résultat est revenu que le cancer était rapide et agressif. Donc, il fallait opérer. 5 mois plus tard, cinq semaines plus tard, on a procédé à l'ablation de la prostate. Au moment où j'ai reçu cette nouvelle-là, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. C'était le vendredi. Le dimanche, j'étais engagé pour aller prêcher dans une église et à 2 jours d'avis, j'ai pas jugé bon de canceller la prédication. Donc, avant d'aller prêcher, usuellement, je relis mes notes. Et avant de partir de chez moi, j'ai relu mes notes. Mais j'avais prêché le même sermon 2 semaines avant. Dans une autre église, j'étais directeur général à ce moment-là, donc j'allais souvent dans les églises le dimanche matin. J'avais prêché le même sermon, et c'était sur Josué, chapitre 2, versets 6 à 9, où Dieu encourage Josué, lui dit de prendre courage, qu'il va être avec lui. Et là, je suis allé dans cette église, et j'ai reprêché le même sermon, et c'est comme si Dieu avait préparé ça juste pour moi. Ce matin-là, dans cette église-là, c'est comme si j'ai enseigné juste pour moi, puis il règne. Et lorsque la nouvelle du cancer est arrivée, émotionnellement, spirituellement, c'est comme s'il y avait un gros nuage autour de moi et j'avais de la misère à voir Dieu, j'avais de la misère à connecter avec Dieu, j'avais de la misère émotionnellement, spirituellement, à me remettre en communion avec Dieu. Et c'est comme par ce passage-là, par mes notes que j'avais écrites et que j'ai relues et que j'ai reprêchées. Et ce matin-là, je me rappelle, j'ai prêché juste pour moi et Irène. Les autres pouvaient m'écouter s'ils voulaient, mais la prédication était pour moi et Irène. Et c'est comme s'il y a une grande main qui est descendue, juste me prendre par l'épaule, me dire, Gilles, je suis là, je suis là. Et ça a été un moment spécial. Avant la chirurgie, j'avais toutes sortes de craintes, toutes sortes d'anxiétés. J'étais au jardin botanique et seul. Et à prier, pleurer, demander à Dieu de m'aider. Et là, j'ai appelé un confrère pasteur pour lui partager ce que je vivais. Et il m'a dit, Gilles, je suis en train de lire le psaume 23, en train d'étudier le psaume 23 pour ma prédication dimanche. Dans ma tête, je me suis dit, le psaume 23, je le connais depuis 40 ans, le psaume 23. Veux-tu que je te le chante? Et là, il m'a dit quelque chose qui est resté. Il me dit, Gilles, dans le psaume 23, quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est là et sa houlette et son bâton nous rassurent. Mais il dit, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le texte, mais qui sont écrites dans notre tête. Puis on voudrait qu'ils soient dans le texte, mais ils ne sont pas là. C'est pas écrit dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas écrit que je ne pleurerai pas. C'est pas écrit que je n'aurai pas de larmes. C'est pas écrit que j'aurai pas de souffrance physique ni morale. C'est pas écrit que je serai pas perdu dans mes émotions. La vallée de l'ombre de la mort, c'est pas écrit la longueur. C'est même pas écrit qu'il y a une lumière au bout de la vallée. C'est même pas écrit qu'il y a du soleil à la fin de la vallée de l'ombre de la mort. C'est même pas écrit qu'il y aurait quelqu'un qui marcherait avec moi. C'est pas écrit qu'il y aurait quelqu'un pour me consoler. C'est même pas écrit qu'il y aurait une fin à la vallée de l'ombre de la mort. Là, je me suis dit, ben coudonc, je l'ai-tu lu comme faux avant? Après 40 ans de vie chrétienne, à ce moment-là, je découvrais un texte sous un autre angle, parce que là, je souffrais. Et c'est comme si j'avais des oreilles différentes, des yeux différents, une perception différente. La seule chose qui est écrite dans le psaume 23, les versets 3 et 4, c'est écrit que Jésus est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il n'y a rien d'autre dans ce texte-là qui procure la paix et le repos du cœur. Rien. Tout ce que j'aurais voulu, c'est pas écrit que la science allait me guérir. C'est pas écrit que j'allais vivre. C'est écrit que Jésus était là. Et là, tout d'un coup, ça m'a comme foudroyé. Je me suis dit, c'est ça ma foi quand ça va mal. Et là, j'ai vraiment eu honte de moi. J'étais pasteur depuis longtemps. J'enseignais la Bible depuis longtemps. Mais j'ai jamais été malade avant. J'ai pas connu ce genre de choses-là. Et là, j'étais confronté à ça. Alors, j'ai réalisé à ce moment-là que ma foi en Jésus était vraiment petite. Et là, comment ça se fait? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, comment ça se fait que je n'étais pas rassuré? Comment ça se fait que je n'étais pas en paix si je suis un disciple de Jésus-Christ? Si je dis que je crois en Jésus, puis que Jésus est mon roi, mon Seigneur, si je dis que Jésus est ma paix, puis je le prêchais depuis longtemps, comment ça se fait que là, je ne le voyais pas? Parce que tout d'un coup, dans la vallée de l'ombre de la mort, j'avais juste perçu que j'étais seul et mal pris. Et j'ai oublié ma foi dans Jésus qui m'accompagnait. Et dans l'épreuve, dans ce moment-là, une des choses que j'ai dû réapprendre, c'est que marcher avec Jésus, Jésus qui marche avec moi dans mon épreuve, va être ma seule source de paix. Et cet après-midi-là, seul au Jardin botanique, j'ai fait un engagement par la foi envers mon Sauveur. J'ai dit, Seigneur, tu vas être ma seule source de paix. C'est pas la médecine, c'est pas la guérison, c'est pas la fin de l'épreuve, c'est pas la consolation de personne. C'est toi qui vas être ma seule source de paix. Et je m'y suis engagé par la foi envers Dieu. Vive l'Évangile, c'est vivre la foi. Et pour la première fois, j'ai été confronté que cet élément-là part vite dans l'épreuve. Parce que tout ce qu'on voit dans l'épreuve, c'est notre mal, c'est notre malheur, c'est notre difficulté, c'est notre détresse, c'est nos craintes, la peur de mourir. Ce n'est pas tellement la peur de mourir parce qu'on sait qu'on s'en va au ciel, mais c'est ce qui va arriver avant de mourir. C'est ça qui nous intéresse point. L'Épître aux Hébreux, L'Épître aux Hébreux dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme... Que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc, tout dépend dans l'épreuve. Dans l'épreuve, tout dépend où on met nos yeux. Et j'ai aucune idée ce que vous passez à travers. Peut-être que vous n'en avez pas d'épreuve. Si vous n'en avez pas d'épreuve, dites merci. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Apocalypse 22 n'est pas arrivé encore. On va en avoir. Si vous en avez ce matin, si ce matin vous passez à travers des moments difficiles, j'aimerais vous encourager à une chose. Tout dépend là où on va mettre nos yeux. Sur notre malheur, sur nos difficultés, sur les gens qui nous déçoivent, sur l'argent qui nous manque, la job qu'on n'a pas, peu importe quoi, ou sur Jésus qui marche avec toi dans ta vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un synonyme de l'épreuve. Ça ne conduit pas toujours à la mort, mais ça nous amène toujours dans une espèce de détresse. Et ce matin, j'aimerais t'encourager devant l'épreuve, devant les moments difficiles, à centrer ta vision sur Jésus. Le but de l'épreuve, c'est de nous faire grandir en maturité spirituelle, enlever l'immaturité du manque de foi, apprendre à regarder à Jésus, apprendre à lui faire confiance, fortifier ta foi dans la personne de Jésus. Alors, dès le premier élément, dès cette première épreuve-là, Jésus me confrontait à réaliser que ma foi avait vraiment besoin de s'ancrer dans quelque chose de plus solide. Jacques dit ceci, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Donc, c'est le but de l'épreuve, te rendre plus solide, plus fort. Et creuser ta racine en Jésus-Christ de telle façon à te rendre solide lorsque l'épreuve arrive. Deuxième chose que Dieu m'a appris à travers l'épreuve, c'est que face aux épreuves, la victoire d'un jour, c'est pas la victoire de tous les jours. Et on aimerait ça qu'une fois qu'on a gagné quelque chose, une fois qu'on a eu une victoire, que hey, on l'a pour tout le temps, là, tu sais. I got it. Mais non, ça marche pas de même. 2 ans plus tard, en septembre, alors le premier épisode était en 2012, en 2014, on m'annonçait que j'avais un autre cancer. Et j'avais recommencé à travailler, et là, on m'a annoncé que j'avais un cancer des ganglions, qu'on appelle un lymphome. Et le lymphome était dans tout mon corps, dans tous mes ganglions, c'était pas juste un endroit. Le lymphome avait traversé le sang, donc j'avais une leucémie secondaire. Il avait traversé, il était rentré dans la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, le sang, la rate, tout était contaminé par le cancer. J'étais au grade 4. En fait, j'avais un pied dans la tombe. Et j'étais en anémie sévère, donc il a fallu que j'aille des transfusions sanguines. Alors imaginez le choc, c'était pire que la première fois. Alors, un second cancer, une autre période d'examen qui n'en finit plus, chimiothérapie pour 5 mois. Et là, je voyais ma vie s'égrener, descendre dans le cercueil. Pourtant, au premier cancer, Dieu m'avait appris à regarder à lui. Et quand est arrivé le deuxième cancer, qui était beaucoup plus grave que le premier, c'est comme si tout s'est effondré encore. Et c'est comme si tout ce que j'avais appris venait de s'évanouir. Et ma foi, ma confiance en Jésus a été rudement mise à l'épreuve. J'ai dû revenir sur mon engagement. Pendant cette période-là, pendant la chimiothérapie, 2 fois, j'ai dû être hospitalisé pour 2 pneumonies qui ont failli toutes les 2 m'emporter, mais Dieu a eu pitié de moi. Je suis resté là. Et à chaque fois que je devais réapprendre à faire confiance à Jésus, c'était toujours de repousser quelque chose. Lorsqu'on place notre confiance en Jésus, on repousse quelque chose d'autre. Lorsqu'on place notre confiance en Jésus pour le salut, on repousse l'adversaire, on confesse nos péchés et on met notre foi en Jésus-Christ. Et là, devant l'épreuve, je devais réapprendre à mettre ma confiance en Jésus, à repousser la crainte, repousser l'anxiété, repousser les scénarios catastrophes, repousser toutes sortes de pensées négatives, les repousser constamment pour me réancrer en Jésus. Et je me rappelle, à quelques reprises, pendant que j'étais hospitalisé, j'aimais m'imaginer Jésus assis sur le pied de mon lit en train de me dire, « Gilles, calme-toi le pompon, là. Je suis là. Gilles, oublie pas, je suis là. Je suis toujours là. » Et j'ai dû apprendre que c'est pas parce qu'on a une victoire une fois qu'elle va rester pour tout le temps. Parce que l'adversaire est là pour nous enlever nos acquis, nous faire perdre ce qu'on a reçu, nous faire perdre ce qu'on a appris. Et il nous faut continuellement remettre à la place ce qu'on a appris de la part de Dieu. Dans Hébreux, c'est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, Hébreux 11, où il y a une série de témoins de la foi. Alors, il continue dans le verset 12, en parlant d'eux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Pourquoi c'est écrit persévérance? Est-ce que ça vous prend de la persévérance pour vous asseoir à la table pour manger? C'est facile, hein? Quand je suis fatigué le soir, moi, ça ne me demande pas de persévérance pour aller me coucher. Ça me demande de la persévérance pour me lever. Le mot persévérance indique un degré de difficulté. Le mot persévérance indique que ce n'est pas naturel, indique que ça ne vient pas tout le temps tout seul. Ça indique que ça demande de revenir et de revenir et de revenir. Alors, il dit, courons avec persévérance. La carrière nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et je ne sais pas combien de fois j'ai dû remettre ça dans ma tête. Ayant les regards sur Jésus. Et c'est ce que l'épreuve veut nous enlever. L'épreuve veut nous mettre notre focus sur ce qui fait mal. L'épreuve veut nous mettre notre focus sur ce qu'on a perdu. L'épreuve veut nous mettre notre focus sur les péchés que les autres nous font souffrir. L'épreuve veut nous faire mettre notre focus sur les douleurs, sur la peine, sur ces choses-là. Et plus on regarde à ces choses-là, le plus c'est déprimant. Mais le plus on regarde à Jésus, le plus notre foi est fortifié. Et le plus la présence de Jésus vient changer quelque chose. Ayant le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Je suis sûr ici, là, 100% de nous avons passé le découragement à un moment donné ou à un autre, pour différentes raisons. Découragé pour toutes sortes de choses. Vous savez, le principe du découragement fonctionne avec là où on met nos yeux. Si je mets mes yeux sur l'imperfection de mon conjoint ou de ma conjointe, je vais me décourager. Si je mets les yeux sur l'argent qui me manque, je vais me décourager. Si je mets mes yeux sur les maladies qui m'affublent, je vais me décourager. Si je mets les yeux sur les choses qui ne marchent pas autour de moi, tout est décourageant. Tout dépend sur quoi on met nos yeux. Et ce sur quoi on met nos yeux est souvent la source de notre découragement. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Le découragement se transforme en dépression. Pour certains, la dépression se transforme en psychose. Et c'est le cycle qui s'en va. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont pas à la bonne place. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Devant les épreuves récurrentes, notre âme va vivre des découragements. Mais tout dépend vers qui on va se tourner. 2 ans après ce cancer-là, alors le premier est en 2012, le deuxième en 2014, en 2016, j'étais à ce moment-là toujours au travail avec l'association, et là j'ai commencé à éprouver des douleurs cardiaques, et là je me suis ramassé à l'hôpital, mes artères étaient bloquées, j'étais au bord de l'infarctus, je me suis ramassé aux soins intensifs, et là on m'a débloqué avec des stents, et finalement, mais j'ai dû passer un certain séjour aux soins intensifs, et là aux soins intensifs, la même chose est revenue. Tantôt, j'ai dit, la victoire d'un jour, c'est pas la victoire de tous les jours. Sauf que c'est comme si le réflexe est revenu plus vite. Et là, j'ai revisualisé Jésus. Et j'ai revu mon engagement que j'avais fait envers Jésus de dire, c'est pas la maladie, c'est pas la guérison de la maladie qui va m'encourager. C'est ta seule présence. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus n'a jamais promis que nos maladies seraient guéries, que nos problèmes seraient finis. Il a juste promis, rappelez-vous, qui serait là, qui marcherait avec vous, avec moi, comme avec vous. Alors, me rappeler la présence de Jésus a été tout un défi continuel pour moi. Comment fais-tu dans tes épreuves? Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Je voulais dire qu'en chantant, là, mais c'est en adorant. Mais il y en a qui ne comptent pas les bienfaits de Dieu, ils comptent le malheur. Il y en a, vous en connaissez sûrement, il ne faut pas leur demander comment ça va. Ils vont te sortir le dossier médical. Puis là, tu es pris avec. Ou encore, ils vont te raconter toute la maladie, pas le malheur. Parce qu'ils sont tellement habitués de compter le malheur, de compter le misère. Ma femme et moi, on vit dans un RPA, dans une résidence pour personnes âgées. Et puis, c'est incroyable. Il y en a du moment qu'on leur demande comment ça va ou qu'on rentre un peu en relation avec eux autres, tout ce qu'on entend, c'est problème, 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 problème. Et ils mangent avec ça, ils dorment avec ça, ils vivent avec ça. La vie a l'air d'être décourageante, mais il y a beaucoup de chrétiens qui font la même chose aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne regardent que leur malheur, que les choses qui vont pas. Alors, grâce à Jésus, j'ai pu vivre cette période-là avec la paix. Et vous savez, c'est ça, quand la Bible dit « la paix qui surpasse toute intelligence gardera » vos cœurs et vos pensées dans vos malheurs. Ouais, j'espère, hein? Joël me dit de vous mettre au test un peu pour voir si... Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vous savez, ça fait faire toute une différence. Comment ça va dans ton cœur présentement? Comment traverses-tu les épreuves de ta vie? Est-ce que tu les traverses en creusant tes racines en Jésus-Christ? Est-ce que tu les traverses en ancrant ta confiance, ta foi dans Jésus qui marche avec toi? As-tu cette ferme conviction, cette conscience que dans ta vallée de l'ombre de la mort, appelle-la comme tu veux, dans ta vallée de l'ombre de la mort, Jésus marche avec toi. Jésus marche avec toi. Et ça, là, ça donne tout le courage dont on a besoin. Ça, ça nous permet de vivre la joie de notre salut, la joie de notre relation avec Dieu, la joie de la certitude que la seule présence de Jésus va faire toute la différence. Troisième chose, dans l'épreuve, il faut abandonner des fois le désir d'avoir des réponses. Après que les choses se sont tranquillisées pour un bout de temps, à l'automne 2020, durant la pandémie, le cancer s'est encore réinvité dans notre vie. Cette fois-là, c'est Irène qui a eu le cancer du sein. Et elle a dû avoir la chirurgie, la chimiothérapie. Et pendant 5 mois, c'est arrivé en même temps que la COVID. Donc, on était reclus, vraiment reclus chez nous. Les gens venaient porter les choses à la porte parce que le système immunitaire est à plat quand on est en chimiothérapie. Donc, le danger d'avoir des infections, on ne voulait surtout pas avoir la COVID. Donc, on a passé un autre bout de temps à vivre avec le cancer. Après un certain temps, est devenu en rémission. Un an plus tard, on s'est rendu compte que son cancer était revenu. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, elle a eu juste un an de rémission. Et là, encore là, ça a été un foudroyant pour nous autres. Pendant cette période-là, moi, j'ai eu un troisième diagnostic de cancer, la peau. Pas le pire, là, mais ça ne te tente pas, là. Il t'enlève des morceaux. Alors, après un an, après sa chimiothérapie d'un an, bon, le cancer est revenu, on est allé voir le médecin, finalement. Ils lui ont donné une chimiothérapie palliative par la bouche, en pilule. Alors, ça fait maintenant 3 ans, elle est pleine d'énergie. Elle a de l'énergie 4 fois comme moi. Et elle va bien pour l'instant. Maintenant, ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner, mais le temps que Dieu va décider que ça va fonctionner. Donc, mais là, il y a toutes sortes de questions qui sont venues. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui m'ont dit, Gilles, Dieu, vas-tu te lâcher? J'aimerais mieux que Dieu ne me lâche pas. Ça dépend de quoi qu'on parle, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, devant la multiplicité des épreuves ou devant la longueur des épreuves, de dire, hey, là, j'en ai assez, Seigneur, là. Là, il y en a qui vont dire, ben c'est parce que Dieu t'aime. Ben oui, mais pourrais-tu en aimer un autre? Et vous savez, des fois, non, mais pourquoi tant, là? Pourquoi tant? Et vous savez, s'il y a une chose qui est... c'est dur d'apprendre qu'on a le cancer, mais c'est encore plus dur de devoir le dire à tout le monde qu'on aime. Parce qu'à chaque fois, ça provoque une peine. Donc, mes enfants, ils ont eu à apprendre que papa a eu le cancer 2 fois. Là, maintenant, à maman, le cancer. Là, le cancer à maman est revenu. Donc, pourquoi autant, là? Et là, je me suis posé bien des questions. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu essaies de me dire que je ne comprends pas? Y a-tu un péché que je ne réalise pas, que je commets, puis que tu me punis? Seigneur, quand est-ce que tu vas arrêter, là, tu sais? Pourquoi autant de choses? Puis en prier, alors je me suis questionné beaucoup et longtemps. Pourquoi à répétition comme ça? J'avais vraiment envie de dire, Seigneur, aime-en un autre, mais je le disais pas, là, parce que je savais que ça se dit pas. Mais j'y pensais. Mais j'avais pas de réponse. Et même si je priais là-dessus, le ciel restait silence radio. Je n'avais pas de réponse. Il y a un autre homme dans la Bible qui n'avait pas de réponse non plus. Joël a prêché là-dessus dernièrement pendant plusieurs sessions, Job, et on les a écoutés, ma femme et moi, à distance. Job avait aucune idée, mais aucune idée pourquoi Dieu permettait ça. Et puis pendant longtemps, même à travers ses amis fâcheux, Job a dû endurer des douleurs, endurer des choses dont il ne comprenait pas ni le sens ni la raison. Nous, on a l'histoire, nous, on sait la discussion qu'il y a eu dans le ciel à propos de lui, mais Job ne le savait pas, lui. Imaginez toutes les questions qui se posaient, imaginez toutes les réactions, tout ce qu'il a dit, la raison de tout ce qu'il a dit, et c'est pas pour rien que sa femme a dit « Maudit Dieu, puis lâche-moi ça », tu sais. Mais c'était pas ça la réponse. Et à la fin du chapitre, Dieu parle à Job, et l'Éternel s'adressa à Job et dit « Celui qui dispute avec le Tout-Puissant est-il convaincu? » C'est comme si Dieu disait à Job, moi le dire en québécois, là, « Job, es-tu sûr tu veux t'astiner avec moi? » Es-tu vraiment sûr? Tu veux argumenter sur ce que moi je fais et ce que moi je décide? Alors, celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Parce que là, il avait passé toute une période, là. Il s'était passé du temps. Nous autres, on saute l'histoire, là. J'ai parlé une fois, je répondrai plus. Deux fois, j'ajouterai rien. Et dans le chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre. Alors, c'est Dieu qui parle. Job répond, oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu dit, écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. À la fin, Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je suis un gars qui pose beaucoup de questions. Quand je vais voir les docteurs, puis je suis toujours rendu là, ils posent beaucoup de questions. Et parce que je pose beaucoup de questions, ben ils pensent que je m'inquiète. Je dis non, je m'inquiète pas, je veux savoir. Je veux savoir où je m'en vais, je veux savoir pourquoi je prends ça, je veux savoir qu'est-ce que ça va donner, je veux savoir les effets secondaires. Mais j'aurais voulu faire la même chose avec Dieu. Ça vous est jamais arrivé de dire, pourquoi Dieu? Tu ne réponds pas à mes prières pour la conversion de mes enfants. Pourquoi Dieu, je prie pour mon conjoint, pour ma conjointe, puis ça ne change pas? Pourquoi Dieu, ça fait tellement longtemps que je veux avoir un travail qui me permet de vivre mieux, puis tu ne me le donnes pas? Ça vous est déjà arrivé de questionner Dieu parce qu'il ne répond pas à vos questions? Il ne répond pas à vos prières. Il ne vous donne pas la raison de ce pourquoi vous êtes éprouvé. J'entendais un frère dernièrement me dire, « Gilles, ça fait longtemps que je prie pour avoir une promotion au travail. » Puis il dit, « J'ai la compétence, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la job. » Puis Dieu ne me le donne pas, puis je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai dit, « Bienvenue dans le club. Moi aussi, j'en ai des tas de pourquoi. » Mais j'ai compris une chose. Dieu m'a fait comprendre une chose. Dieu, attachez vos tuques, Dieu ne vous doit rien. Dieu ne nous doit pas une réponse. Nous lui devons confiance. Il n'y a rien qui exerce plus la foi que de marcher en faisant confiance à quelqu'un, en le suivant simplement parce qu'il est digne de confiance, même si on ne comprend rien, même si on ne sait pas. Même si on n'a pas de réponse à nos prières, même si on prie, si on demande et on demande et Dieu ne répond pas. Dieu veut tout simplement qu'on lui fasse confiance. Imaginez Abraham comment il devait avoir des questions. Dieu y avait promis un fils, puis là il vieillissait, puis ça ne venait pas. Et une fois qu'il l'a eu, Dieu lui a demandé d'aller l'offrir. Il est allé par la foi. La Bible nous dit que Dieu l'a justifié sur la base de sa foi. La foi, c'est de faire confiance sans les réponses. Et quelque part dans mon chemin, avec la maladie, Dieu m'a appris arrête de poser des questions, puis fais-moi confiance. T'es-tu là? T'es-tu là avec Dieu? Dans tes prières, dans la longueur de tes épreuves, dans la dureté de tes épreuves des fois, dans tes besoins fondamentaux pour lesquels tu pries à Dieu et pour lesquels Dieu ne répond pas. Es-tu prêt à lui faire confiance juste parce qu'il a dit « Fais-moi confiance. » Même si je ne te réponds pas, fais-moi confiance. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu que lorsqu'on a des questions sans réponse, Dieu nous demande juste de lui faire confiance. Et ça veut dire creuser notre foi dans sa souveraineté. La Bible dit de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas le pourquoi des toutes choses. Et puis, les toutes choses que Dieu permet dans notre vie, on ne sait pas toujours pourquoi il arrive. Des fois, l'histoire nous l'apprend à la longueur du temps. Mais sur le coup, on ne le sait pas. Et c'est là que notre paix réside pas. Et là, les amis, notre paix spirituelle ne réside pas dans les réponses qu'on demande à Dieu, mais dans la foi qu'on lui accorde parce qu'on lui fait confiance en marchant avec lui. Et à travers le nombre de maladies que j'ai eues, et j'en passe parce que j'ai pas tout le temps de parler de tout ça, que j'ai réalisé que j'ai arrêté de questionner Dieu. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup plus de paix en dedans de moi. J'ai beaucoup plus de paix en dedans de moi. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas ce qui va m'arriver. Tu sais, dans mes questions, je voyais que Dieu me limitait. Limitait dans mon ministère pastoral, limitait dans mon travail, limitait dans ceci ou cela. Mais je réalise à quel point Dieu voulait que j'apprenne à le suivre, tout simplement. Le quatrième élément, dans l'épreuve, sa grâce s'accomplit à travers notre faiblesse. Ça, c'est arrivé l'été passé. Après la chimio d'Irène, son retour à la normale à l'été 2023, j'ai dû recevoir mon cancer a récidivé. Alors, le lymphome est revenu en 2023. Ça aussi, ça a été un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Après 8 ans de dormance, le cancer est revenu. Et là, j'ai dû repasser à travers la chimiothérapie. J'ai dû repasser à travers la chimiothérapie pendant 6 mois. Ça a laissé mon système immunitaire à plat. Alors, si vous essayez de me donner la main ce matin, vous allez avoir mon coude, gentiment, là. Parce que je ne donne pas la main à personne. Vous allez voir, je porte un masque après, parce que je dois toujours me protéger. Et là, j'ai passé à travers une autre année de traitement. Une fois que ça a été passé, l'été dernier, en juillet, j'ai attrapé la COVID. En plus, alors 2 mois avec la COVID, 8 jours à l'hôpital, difficultés respiratoires. Encore là, j'ai failli passer par les difficultés respiratoires. Et là, pendant que j'étais sur mon lit d'hôpital, en fait, c'était une civière à l'urgence. J'ai eu la grâce de passer 5 jours à l'urgence. C'est merveilleux. Et puis, alors 5 jours couché sur un lit, à courir après ton souffle, et puis à te demander qu'est-ce que tu fais là. Et là, pendant cette période-là, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, est venu à mon esprit. Et c'était une période difficile. Et voici le texte que Dieu a mis sur mon cœur. C'est l'apôtre Paul qui a reçu une révélation spéciale. Et pour pas qu'il soit enflé d'orgueil, Dieu a permis un écharde dans sa chair. Et pour que je sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. On va arrêter là. Et j'ai accroché là-dessus. Quand Paul dit, ma grâce te suffit, ça veut dire quoi en pratique, ça? Quand Paul dit « Ma puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse », Ça veut dire quoi en pratique, ça? C'est beau, on lit ça, on passe par-dessus rapidement, là, et puis on connaît ce texte-là. Mais ces mots-là, ils veulent dire quoi? Alors, Dieu désirait que sa puissance passe à travers sa faiblesse. Mais le mot faiblesse, on l'aime pas vraiment. Faut être honnête avec ça. Et dans ces 8 jours d'hospitalisation-là, Dieu m'a forcé à réfléchir là-dessus. En quoi consiste la grâce? La grâce salvatrice, c'est le cadeau de Dieu, que Dieu nous sauve. Et on lit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que c'est un don de Dieu. La grâce, c'est par définition un don de Dieu. Mais là, dans la maladie, il dit, ma grâce te suffit. Ben, c'est pas un cadeau, être malade. Donc, le mot « grâce » s'identifie à quoi? Et ici, on parle pas de quelque chose de joyeux, mais il semble que dans l'épreuve, Dieu nous... Et ici, le mot « grâce » est associé à cette capacité, à cette force, à cette puissance que Dieu donne pour passer à travers ce qu'on éprouve. Mais là, il y a un autre mot qui va avec ça, là, le deuxième mot, « ma grâce te suffit ». Suffit. Admettons que votre petit gars veut aller au cirque, il y a un cirque pas loin de chez vous, votre petit gars veut aller au cirque, puis il vient vous voir, puis il dit, « Papa, je peux-tu avoir 20 piastres pour aller au cirque? » Là, tu regardes ça, tu dis, « Non, je vais te donner 5 piastres. » Le petit gars, il dit, « Non, non, papa, je t'ai demandé 20. »« Non, non, je t'en donne 5. »« Papa, je t'ai demandé 20. »« Non, non, 5, ça va te suffire. » En fin de compte, quand le papa, il dit ça, ça veut dire que le père connaît son petit gars, il sait comment il peut mal dépenser, puis il sait très bien que 5, c'est correct. Mais c'est pas ce que le petit gars veut. Quand Dieu dit « ma grâce te suffit », Dieu est en train de te dire, et Dieu est en train de me montrer, le cadeau de puissance que je te donne, c'est suffisant pour passer à travers ton épreuve. Ouais. Mais moi, là, je veux la guérison. Je ne veux pas courir après mon souffle tout le temps, là. Moi, je ne veux plus de cancer. Je veux la guérison. Non, Dieu dit, Gilles, ma grâce te suffit. Le suffit, là, ça ne me plaisait pas, là. Est-ce que la grâce de Dieu, je la trouvais suffisante? La réponse est non. Ben honnêtement, non. Ma prière, c'était que Dieu me guérisse, me sort de l'hôpital, me permette de respirer normalement. Et pendant cette période-là, j'étais en voyage à l'île du Prince-Édouard. J'ai dû revenir en catastrophe pour être hospitalisé. Irène et moi, on devait célébrer avec nos enfants notre 50e anniversaire de mariage. Je l'ai passé à l'hôpital, mon 50e anniversaire de mariage. Donc, vous venez pas me demander si la grâce me suffisait. La réponse était non. Ça nous ressemble, hein? Parce que ce qu'on veut, c'est la fin de nos épreuves. Ce qu'on veut, c'est la réponse à notre prière. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on a demandé. Mais Dieu dit, Gilles, ma grâce te suffit. Si la grâce de Dieu est suffisante pour traverser tes épreuves, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu juge qu'il t'a donné tout ce qu'il te fallait pour traverser ton épreuve. Est-ce que c'est tout ce que tu voulais? Pas nécessairement, mais c'est tout ce qu'il te fallait. Ouais. Là, j'ai un autre défi. Faut que je dise merci. Faut que je dise amen. Faut que je dise Dieu, merci parce que tu m'as donné tout ce qu'il fallait. C'est un défi de foi. C'est un défi de confiance. Comprenez-vous, lorsque l'apôtre Paul disait... Trois fois, j'ai prié pour que cet ange de Satan-là arrête de me souffleter. Puis Dieu il dit à Paul, « Non, Paul, mon Paulo, ma grâce te suffit. » Beaucoup de chrétiens ne le prendraient pas. Mais c'est là qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, « Si la grâce de Dieu me suffit, la grâce de Dieu va me suffire. » Ça veut dire que Dieu m'a donné tout ce qu'il fallait pour passer à travers. Ça veut dire que Dieu m'a donné toute sa puissance pour que j'accepte l'épreuve, pour que j'accepte la situation, que je grandisse à travers ça. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. J'aimerais que tu penses un instant à l'épreuve que Dieu te permet de traverser, aux difficultés que tu vis présentement, conjugales, financières, professionnelles, santé, peu importe. Es-tu prêt à dire, « Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes pour traverser ça, parce que ta grâce me suffit. » Et à travers ton cheminement dans la vallée de l'ombre de la mort, es-tu prêt à répéter et à dire à Dieu, « Merci Seigneur, ta grâce me suffit, parce que j'ai tout pleinement en toi, parce que ta présence dans ma vie, dans ma vallée, est la seule richesse qui n'en vaut la peine. Parce que peu importe la longueur, peu importe si ça va finir ou pas, si ta grâce est suffisante, j'ai tout ce qu'il me faut pour être victorieux. » Et c'est là que les choses changent de perspective. Il continue en disant, « Ma puissance, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est Dieu qui dit ça. « Ma grâce te suffit, car ma puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit à travers la faiblesse. » Encore là, je me suis arrêté, j'ai réfléchi, c'est quoi la faiblesse? Bien, c'est facile de dire, la faiblesse, c'est d'être couché sur un lit d'hôpital, là, t'es faible. OK. Toute faiblesse veut dire état de dépendance envers Dieu. Toute faiblesse veut dire lorsque je suis pas capable, lorsque je dois réaliser que je peux pas solutionner mon problème, lorsque je dois réaliser que sans Jésus, je peux rien, lorsque je dois réaliser que je suis complètement dépendant de Dieu. Et la faiblesse passe par la réalisation que nous sommes complètement dépendants de Dieu. Et c'est à travers cette dépendance-là que Dieu va accomplir sa puissance. Lorsqu'on refuse d'être dépendant de Dieu, c'est qu'on est trop orgueilleux et qu'on veut nous-mêmes prendre charge de nos problèmes, on veut nous-mêmes prendre charge de notre situation, on veut nous-mêmes trouver les moyens en disant, non, regarde, je vais m'arranger, là, et puis par orgueil, par sentiment de puissance, peu importe. Mais Paul a réalisé une chose. Paul était conscient de sa complète dépendance de Dieu. Et c'est uniquement dans cette dépendance-là que Dieu accomplit sa puissance. Parce que c'est dans la dépendance envers Dieu que Dieu nous rend forts. Et c'est ce qu'il dit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On pourrait remplacer le mot faible par le mot dépendant. Parce que la dépendance envers Dieu, c'est la reconnaissance de notre faiblesse. Quand on se pense fort, on ne dépend pas de Dieu, on dépend de nous. La dépendance de Dieu, c'est la reconnaissance de notre faiblesse. Et c'est quand on dépend de Dieu, c'est quand on reconnaît qu'on est faible, c'est quand on reconnaît qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, que ce n'est pas par nos forces qu'on va s'en sortir, mais c'est par la puissance de Dieu. Quand on reconnaît que la seule puissance de Dieu est notre seule source de force, c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Oui, dites amen. Parce que c'est vos chaises qui vont le dire. On voudrait que la puissance de Dieu s'accomplisse à travers nos forces. On voudrait que la puissance de Dieu s'accomplisse à travers nos dons. On voudrait que la puissance de Dieu s'accomplisse à travers nos bonnes œuvres, à travers toutes sortes de choses. Mais non, c'est pas ça. La vraie puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse, c'est la dépendance envers Dieu. J'aimerais terminer. Et vous savez, ce que je vous ai partagé ce matin, je dois continuellement le reviser pour moi-même. Mes victoires d'un jour ne sont pas les victoires de tous les jours. Il y a 2 semaines, on m'a appris que j'étais encore, le cancer avait récidivé. Donc, je suis encore avec le cancer. Et je suis en attente de traitement pour une 3e récidive. Ça a été un autre choc. Et je dois reviser tout ce que je vous ai partagé ce matin. Je dois le reviser et le reviser encore. Les victoires d'un jour, ce n'est pas la victoire de tous les jours. Et dans cette 3e récidive, 5e fois qu'on m'annonce que j'ai le cancer, 6e fois avec ma femme, dans cette récidive-là, j'ai aucune idée si je vais m'en sortir. J'ai aucune idée. C'est une troisième récidive. Mais je sais une chose. Peu importe s'il y a une lumière au bout du tunnel. Peu importe s'il y a une troisième récidive ou s'il n'y en a pas, ou si c'est mes funérailles, puis la gloire au ciel. Je sais une chose. Jésus va marcher avec moi. Je sais une chose. Le plus je vais demeurer dépendant de Christ, le plus la joie de mon salut va demeurer là. Et c'est ça que j'aimerais t'encourager ce matin. Peu importe ce que tu vis, ta joie spirituelle, tes racines en Jésus-Christ, l'apprentissage à travers la faiblesse, à travers les défis, à travers l'épreuve, vont dépendre de ta racine dans la foi. Comment tu t'enracines en Jésus-Christ? Comment tu pratiques la présence de Jésus et non la présence des problèmes? J'aimerais terminer avec ce verset-là de Jérémie, deux versets en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je m'identifie tellement à ça, mais en même temps, je pense que chacun de nous pouvons nous identifier aussi à ça. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le recours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette jamais, ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. C'est encourageant de lire ce texte-là. Je ne sais pas si la louange a un dernier chant, vous pouvez vous avancer. Mais c'est encourageant de lire un texte comme ça, parce que, oui, l'Éternel afflige, mais l'Éternel encourage. L'Éternel donne la force. Pour autant qu'on persévère à regarder à lui, pour autant qu'on persévère à se fier à lui. Un dernier verset dans Isaïe 54, 10. On le chante, mais vous savez, il va tellement avec ce qu'on vit parfois. Même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et j'aimerais t'encourager, si ce matin, tu passes par l'épreuve. Si ce matin, Dieu met ta foi à l'épreuve, j'aimerais que tu puisses faire de ce verset-là le tien. Quand bien même que tout s'effondrerait, Dieu va marcher avec toi dans ton épreuve, dans la vallée de l'ombre de la mort. Jamais Dieu va nous laisser tomber. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, merci pour tes promesses. Merci pour ta bonté. Merci parce qu'on peut se fier. On peut se fier à toi, plus que n'importe quoi d'autre. Merci, Père éternel, parce que tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre capacité de résilience dans l'épreuve, parce que tu es présent dans notre vie. Je veux te prier, Père éternel, pour quiconque ici ce matin lutte avec le doute, la douleur, le découragement, l'épreuve. Père éternel, sois sa force, sois son encouragement, sois son compagnon de route dans sa vallée de l'ombre de la mort. Fortifie sa foi pour qu'il soit victorieux, affermi et rassuré de ta présence. Je te demande ça à travers Jésus-Christ. Amen.